Juste pour rappel, hein, de Pierre, la deuxième épître de Pierre, et donc la dernière lettre que l'apôtre a écrite peu de temps avant son martyre, c'est une lettre où il essaye de mettre en garde l'Église au vu des faux docteurs, la persécution étant déjà là, mais maintenant, voilà, le danger n'étant plus seulement extérieur, mais aussi intérieur. Avec l'arrivée des faux docteurs, et c'est vraiment un enseignement sur ce thème-là que la deuxième épître de Pierre. Et puis, je vais juste faire un petit rappel en relisant les versets de ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, on avait commencé en 2 Pierre 1, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos yeux propres, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. La manière dont l'apôtre nous a fait connaître le Seigneur Jésus, c'est pas par un beau récit, une poésie ou que sais-je, mais c'est vraiment au travers de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a vu. Il a même entendu la voix du Père, hein, quand il était sur cette montagne où Jésus a été transfiguré, où il s'est manifesté dans toute sa gloire. Et puis ensuite, au verset 19, il nous explique l'importance des Écritures. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est ni par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, on avait vu, hein, que cette parole prophétique, en fait, ça peut vraiment remplir toutes les Écritures elles-mêmes. Ce n'est pas une parole prophétique spécifique, mais c'est avant tout toutes les Écritures, comme le disait Paul aussi, hein, toute Écriture est inspirée de Dieu. Là, on a vu l'importance de l'interprétation pour faire une bonne interprétation. On ne peut pas en faire une interprétation personnelle, hein. Ici c'est traduit particulière. Non, on a besoin de la révélation du Saint-Esprit. On a besoin que le Saint-Esprit nous parle pour nous faire comprendre les Écritures et puis pour qu'on puisse donner aussi une compréhension, un enseignement, une vision des Écritures qui soit vraiment fondée sur Dieu et non sur une théologie humaine, sur un raisonnement scientifique ou que sais-je, hein. On a vraiment besoin de l'œuvre du Saint-Esprit pour comprendre la portée des Écritures. Et c'est bien sur ces Écritures-là qu'est basée notre foi. Et nous sommes dans l'attente qu'un jour, cette lumière à laquelle nous avons cru vienne apparaître et supprime toute l'obscurité sur cette terre, hein, avec le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis là commence donc l'enseignement sur les faux prophètes et les faux docteurs. Ça on avait vu aussi la dernière fois, je vais relire ces versets au début. Et puis je vous rappelle donc la structure du deuxième chapitre, il est comme ça, hein. On pourrait donner comme titre Condamnation des faux docteurs, ça c'est le deuxième chapitre. Alors, un premier sous-chapitre. Ce qu'il faut s'attendre de la part des faux docteurs, ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois, on va regarder. Ce à quoi ils peuvent s'attendre de la part de Dieu, ça c'est un deuxième sous-chapitre. Troisième sous-chapitre, quelques caractéristiques des faux docteurs. Et quatrième sous-chapitre, danger de s'éloigner de la vérité. Donc, condamnation des faux docteurs. Premier sous-chapitre, ce à quoi il faut s'attendre de la part des faux docteurs. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Il y a un jugement de Dieu qui viendra un jour si ces personnes ne se repentent pas et restent dans leurs faux enseignements. Hein. Et ça, on le verra aussi dans la suite de ce qu'on va partager. Dieu ne laisse pas les choses impunies, surtout par rapport à sa parole. Je me disais, mon Dieu, ce que ce verset est d'actualité. Hein, plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité, si on pense là, vous avez peut-être entendu, il y a au niveau de la hiérarchie, c'est la troisième personne dans l'Église catholique qui vient de se faire juger pour pédophilie, hein, puis qui a pris du ferme. Voilà, lui, il clame innocence, il va faire recours. Hein, moi, j'en sais rien. Mais si c'est véridique, j'en sais rien, j'ai pas suivi l'affaire. Hein. C'est peut-être véridique.
Ils l'ont mis à la télévision tout récemment. Ah, ouais. Puis ils ont dit que c'était, en étant le troisième du Saint-Serge, le Vatican, il s'occupait de toute la fortune et tous les placements financiers du Vatican. C'était lui le gros Manitou, qui s'occupait que de l'argent et de la fortune du Vatican. Bon, il est australien, hein, son fédéral, je crois.
Oui, oui.
Il est australien. Mais il s'est fait, malgré son âge, parce qu'il a un âge avancé, hein, ils l'ont montré dans les médias. Mais souvent, ils parlent de cas antérieurs depuis plusieurs années. Hein. Ce n'est pas des cas tout récents, tu vois. Ils remettent sur le tapis des cas qui se sont passés il y a...
Oui, c'était au milieu des années-là.
Voilà, 10, 15, 20 ans derrière, ça ressort.
Ça met 20 ans à sortir.
Ouais, ça met 20 ans à sortir parce que c'était caché. Hein. C'était caché. Ils essayaient d'éteindre chaque fois les incendies hein, qui sortaient du milieu d'eux. Hein.
Alors vraiment, hein, la voix de la vérité sera calomniée. Et c'est un discrédit par rapport à la foi chrétienne.
À cause de ça, hein, à cause de ça. Hein. Et c'est pour ça qu'il y en a certains qui disent « Mais qu'est-ce que vous voulez que je vais bien me... » Je m'excuse de vous porter ce témoignage. Hein. J'ai un voisin en face, ou à côté, hein, qui vient d'arriver, un portugais. J'essaye toujours de porter la parole, le témoignage, tout ça. Ils disent tout de suite, ils lèvent les bras et disent « Écoutez, avec ce qui se passe chez les catholiques, ce qui se passe avec les curés, les nonnes et compagnie, même les moines, ceux qui sont enfermés dans des monastères, et vous allez nous dire quoi ?» Donc, ça insulte la parole de Dieu et le ministère que Dieu veut que les êtres humains, nous, les témoins, on continue à faire sur la terre. Mais quand il y a de tels témoignages, ils ne veulent même pas écouter. Dès qu'on entame la parole, dès qu'on essaye de leur rapporter la parole, ils nous arrêtent tout de suite. Non, vous allez trop loin, c'est bon, on a compris. Arrêtez avec vos histoires, ça va. Alors, ça discrédite. En gros, ça discrédite le témoignage. C'est malheureux, hein. Ben, on en revient avec ce qu'on vient de lire, quoi. Ce qu'on vient de lire.
Bon, on pourrait faire un parallèle, parce que c'est vrai qu'on peut être pris dans une discussion comme ça, hein. Se dire, mais bon, c'est comme un médecin qui pratique et qui a pas fait d'études. Parce que ces gens-là, je veux dire, s'ils connaissent un tant soit peu les Écritures, ils devraient savoir que ce genre de comportement, c'est pas... on peut pas cacher ça, hein. Ça doit être dénoncé et puis la personne elle doit être mise en discipline et puis pourtant quand on voit hein, ouais, enfin bref alors voilà donc après on peut continuer donc ça c'était le premier sous-chapitre hein, ce à quoi il faut s'attendre de la part des faux docteurs ce à quoi ils peuvent s'attendre de la part de Dieu alors on peut commencer au verset 4 puis on fait comme d'habitude on par exemple, les personnes lisent deux versets, puis on fait le tournus, puis on va lire jusqu'au début, bon, on lira jusqu'au verset 10, puis on verra la suite.
En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités, enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils soient gardés en vue du jugement. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur le monde impie.
Par ailleurs, il a condamné à la destruction, réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre pour les donner en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété. Et il a délivré Lot, le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés.
Ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait en effet jour après jour son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur agissement criminel. Ainsi donc, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et gardé les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. C'est le cas notamment de ceux qui, dans un désir d'impureté, courent après les plaisirs de la chair et méprisent toute autorité. Ça continue encore. Présomptueux et arrogant, ils ne craignent pas d'insulter les êtres glorieux.
Merci. Alors voilà, hein, donc on voit en effet au verset 4, il y a le jugement qui est annoncé. Toute chose ici, bas sur cette terre, un jour sera amenée à un jugement. Que ce soit de ce temps hein, ou pour l'éternité, mais de toute façon, il y aura un jugement. Et les faux docteurs n'échapperont pas à cette règle, quand bien même ils semblent être au service du Christ. Donc là, dans le passage qu'on vient de lire, l'apôtre Pierre donne en référence plusieurs exemples du passé. Le premier, c'est le jugement des anges déchus. Ils ont été précipités dans les abîmes de ténèbres et sont mis en réserve pour le jugement. Il faut savoir que certains manuscrits, en grec, parce qu'on a plusieurs manuscrits hein, en grec, on n'en a pas qu'un en preuve, on en a plusieurs. Et puis certains, ils ont des petites différences, mais c'est minime, ça ne change pas une doctrine. Hein. Manuscrit grec ici pour le verset 4, il est écrit « lié dans des chaînes d'obscurité ». Donc, c'est des anges qui sont tenus liés pour un temps. Et puis, il y a vous verrez pourquoi je vous parle de ça, hein, parce qu'après, on va aller plus loin. Il y a un verset parallèle dans Jude 1, verset 6. Jude 1, verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc on est vraiment un peu dans la même signification, un peu un passage vraiment parallèle ici, où on voit qu'il y a des anges, parce qu'ils n'ont pas gardé leur dignité, ils ont été chassés de leur demeure, et enchaîné éternellement par les ténèbres. Hein. Un peu comme très parallèle avec ces autres manuscrits qui ont écrit ici au verset 4, hein, ces anges qui sont enchaînés dans les chaînes d'obscurité. Et puis, ce passage-là, donc c'est ce verset qu'on vient de lire en Jude 1, verset 6, et puis ce verset de 2 Pierre 2, verset 4, nous font penser à un autre passage qu'on va lire ensemble. Et puis, parce que je me disais, c'est intéressant. C'est par rapport au mauvais esprit, aux démons et tout ça. On ne va pas en faire une théologie bétonnée. Mais c'est quand même intéressant parce que ça nous parle de certaines choses pour la fin des temps. Alors, j'espère qu'on ne sera pas là. Hein. Moi, j'ai cette confiance dans le Seigneur que je ne serai pas là. Mais de voir que Dieu a prévu quand même certaines choses par rapport à ces démons qui se passeront dans les temps de la fin, pendant la période de jugement sur cette terre. Hein. On va lire Apocalypse 9, versets 1 à 11. Apocalypse 9, versets 1 à 11. Donc, on est à la cinquième trompette. Hein. C'est les trompettes annoncent des jugements. Moi, je vous lis deux versets, puis après, on fait le tournus. Hein. Alors, le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit les puits de l'abîme. Et il y monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits.
Des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre. Et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur leur front.
Il leur fut permis non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le tourment qu'elles causaient était comme celui causé par le scorpion quand il piqua un homme. Durant ces jours-là, les hommes rechercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux.
Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Elles avaient sur la tête une couronne d'or et leur visage était pareil à celui d'un homme. Elles avaient des cheveux semblables à des cheveux de femme et leurs dents étaient comme celles des lions.
Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit des chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Ils avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois.
À leur tête, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon ou en grec Apollyon.
Voilà. Merci. Le premier malheur est passé, voici, il y a encore 2 malheurs après cela. Donc, il y a quelque chose qui se passe à la cinquième trompette. Et l'apôtre Jean voit une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Et cette étoile, là, on vient de lire l'étoile du matin, hein, c'est Jésus-Christ. C'est, l'étoile nous parle d'être glorieux. Mais pas seulement positif, mais aussi négatif. Et là, en fait, cette étoile qui tombe, ça pourrait être simplement Lucifer, hein, porteur de lumière, le Satan.
Ce qui était le précipité sur terre avec voilà, ses anges.
Voilà. Alors, il y a ici un événement qui se passe. Le diable, hein, parce que moi, je pense que c'est lui ici, hein, qui a d'ailleurs un nom, Abaddon en hébreu et Apollyon en grec. On verra ce que ça veut dire, puisque ça colle vraiment bien. C'est un titre qui va vraiment bien à Satan. Il a l'autorité pour ouvrir l'abîme et puis en fait que les mauvais esprits sortent pour une durée de 5 mois. Après, il y aura d'autres malheurs qui vont suivre. Alors, est-ce que durant ce temps de jugement de Dieu sur la terre, il est possible que tout à coup, il y aura vraiment une manifestation terrible des puissances des ténèbres, hein? Et ça rejoint un peu, après je vais revenir là sur Apocalypse, ça rejoint là ce qu'on vient de lire de Pierre, hein? Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes et les réserve pour le jugement, Dieu, de toute façon, les a déjà jugés. Hein, les puissances des ténèbres, elles sont jugées. C'est bon, elles ont déjà été précipitées, entre guillemets, elles ont perdu leur autorité, leur temps. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent plus rien faire. On verra hein, encore. Je ne sais pas si on ira aussi loin que ça ce soir. Mais elles sont encore à l'œuvre aujourd'hui, c'est clair. Puis elles ont même encore un rein, même un rein de dignité. On verra, la Bible en parle, c'est étonnant. Hein, voilà, il y a des choses qu'aujourd'hui, on ne peut pas toucher. Dieu a fait comme ça. Il y a une hiérarchie dans les puissances des ténèbres et il y a certaines choses au niveau des puissances des ténèbres on peut pas toucher. C'est Dieu qui a fait les choses comme ça. On verra plus tard par la suite, hein. Ça veut pas dire qu'on n'a pas autorité sur les puissances des ténèbres, c'est pas ça, mais vous verrez. Donc il y a cette idée que Dieu les a liés dans l'abîme. Et puis en fait aujourd'hui, pour qu'elles puissent se manifester, il faut que quelqu'un s'ouvre aux puissances des ténèbres. Et au moment donné où la personne s'ouvre aux puissances des ténèbres, par la sorcellerie ou bien par l'idolâtrie, hein, au travers des fausses religions, par des activités dans l'immoralité sexuelle, ça va donner des droits à ces puissances-là. Et à un moment donné, ou bien l'alcoolisme, la drogue et tout, hein, ça va ouvrir des portes. Hein. Et puis, à ce moment-là, les démons, ils vont pouvoir rentrer. Hein. On a plein de récits, on voit très... Hein, on a vu aussi samedi dernier, là, se posséder. Hein. Voilà, il était rempli de mauvais esprits. On avait vu avec les enfants, en fait, ouais, je me trompe, on avait vu avec les enfants, le fameux possédé où tout à coup Jésus permet qu'ils aillent dans les ports, hein, vous connaissez l'histoire, et puis les démons vont aller dans les ports, et puis les ports vont se précipiter dans l'eau, parce que les démons ne voulaient pas retourner dans l'abîme, hein, est-ce que tu viens déjà pour nous perdre, hein, les démons avaient la crainte devant le Seigneur Jésus-Christ, bref, dans les temps de la fin, dans les temps de jugement, c'est comme si tout à coup l'abîme va s'ouvrir et les démons pourront sortir sans que les gens y aient donné accès, mais ils viendront et tourmenteront les gens pour une durée de 5 mois, à part ceux qui auront donné durant cette période leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Hein. Sauf ceux qui ont leur nom qui est inscrit.
C'est marqué un signe sur leur front. Ouais. C'est marqué un signe sur leur front ici.
Hein. Ouais, ouais. Alors, c'est quel verset? C'est où déjà?
Le saut. C'est le verset 4. Hein?
Ouais.
Le saut de Dieu.
Voilà.
Sur le front.
Le saut de Dieu sur le front. Hein? C'est ceux qui appartiennent au Seigneur, en fait. Hein? Voilà, c'est ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Donc, il y a un temps de jugement qui viendra sur cette terre. Et puis, le chef... l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, qui est le chef de l'abîme? Ben, c'est Satan. C'est Satan qui a autorité sur le séjour des morts. Aujourd'hui, il était vaincu. Hein? Jésus a repris la clé. Mais c'est encore lui qui gère le lieu. J'espère que je ne verrai jamais cet endroit grâce au Seigneur, hein, et à sa miséricorde. Et on voit qu'il porte comme titre Abaddon et Apollyon. Et puis en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire destructeur. Petite parenthèse, un dieu hindou s'appelle aussi le destructeur. C'est le fameux Shiva, dieu de la destruction. Et il est souvent représenté dans un cercle de flammes, qui représente la succession des cycles cosmiques avec 4 bras et il est en train de danser. Hein. Vous avez peut-être déjà vu des représentations. Hein.
Ouais, ça se voit.
Ouais, il est courant en effet. Hein. Abaddon, le destructeur. Jésus parle en Jean 10, verset 10, hein, je vous lis. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Hein, il parle de Satan. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je vous lis encore par rapport à la destruction aussi un verset. 1 Corinthiens 5, verset 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. C'était quoi? C'était un homme qui couchait avec son parent. Hein,
avec sa mère.
Ouais. Et puis, Paul disait qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, dans l'espérance qu'il reviendra à la repentance. Donc, ça voulait dire, en fait, il fallait sortir de l'église. Hein, si un frère a péché, vous connaissez ce passage, hein, de Jésus, hein, va. Et puis s'il se repent pas, tu prends des témoins. Et puis s'il se repent pas, tu prends l'Église. Puis l'Église, à un moment donné, en effet, s'il y a un péché qui est grave, à un moment donné, l'Église, elle doit remettre de l'ordre. Et c'est ce que disait Paul, là aussi, par rapport à un péché grave, afin que le nom du Seigneur ne soit pas profané. Hein. C'est ce que devrait faire l'Église catholique dans bien des situations aujourd'hui pour remettre de l'ordre. Donc si on exclut quelqu'un de l'Église, c'est dans l'espoir que cette personne va passer par un parcours où le diable, en fait, parce que le diable va prendre vraiment autorité sur elle. En général, les gens, quand ils sortent de l'Église, à un moment donné, il n'y a rien de magique à ça, mais ils perdent quand même une protection de l'Église. Parce que l'Église, il y a quand même une forme de protection spirituelle. Je ne veux pas entrer dans un spiritisme, je ne sais pas quoi. Hein, mais il y a quand même une forme de protection spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on est des vis-à-vis. Hein? Si toi, tu vois un frère qui commence à partir dans les cacahuètes, je pense que tu vas quand même lui dire quelque chose. Je sais pas, hein, si la personne, elle commence à avoir un comportement qui s'éloigne des Écritures, on est là, hein, la Bible dit « soumettez-vous les uns aux autres ». On est là aussi pour, quand même, pour rappeler qu'il y a un cadre et puis…
Si tu dis rien, t'es consentant.
Mmh.
T'es complice.
C'est ça.
Ça veut dire que t'es d'accord. Mmh. Mais tu dois le reprendre avec amour et tout. Mais
ah ouais, bien sûr.
Mmh. Si tu le reprends pas, ben ma fille, ça veut dire que t'es d'accord avec.
Mmh.
C'est pas évident ça.
Mmh.
Pour ça, il faut pas avoir peur de dire la vérité. Bon, avec amour, comme tu dis, mais avec fermeté aussi. Hein.
Oui, il y a un passage qui pourrait se rapporter à ça. C'est justement ce qui suit là dans 2 Pierre.
Mm-hmm.
Par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et Gomorre pour les donner en exemple à ceux qui, par la suite, vivaient dans l'impiété. Et il a délivré Lot, le juste, qui était juste dans Sodome et Gomorre, que Dieu a sauvé, qui a été profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ce juste qui habitait au milieu d'eux, c'est un peu notre cas, hein. On habite dans un monde pareil actuellement. Hein. On est profondément attristé, mais on ne peut rien faire. Ce juste qui habitait au milieu, tourmenté en effet jour et nuit, son âme, juste à cause de ceux qui voyaient et entendaient de leur agissement criminel. C'est un peu ce qu'on subit nous maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on subit ça. On est attristé par ce qui nous entoure. On est de ces agissements qui n'arrêtent pas de se répercuter. Cette soi-disant démocratie qui existe et qu'on impose, qui autorise 40 000 personnes à se marier, les homosexuels en France, en six mois, il y a eu 40 000 mariages homosexuels. Vous voyez un peu la débandade. Ça correspond
c'est
un peu.
C'est la fin d'une civilisation.
Mais tu vois, qu'il y a eu 40 000 mariages homosexuels en même pas 6 mois.
C'est toi qui as l'homosexualité, c'est la fin.
Ouais. Et sous le chapeau de quoi? De la démocratie. Tout le monde a le droit de faire tout ce qu'il veut. Et quand il veut.
Surtout pas obéir à Dieu.
Voilà. Ah ouais, non, ça.
Mais ça retrace un peu ce qu'on est en train de lire, hein, malheureusement. Hein. On le vit hein, maintenant. Hein, ce qui
la tolérance pour tout, sauf la parole de Dieu.
Oui.
Tout le monde, il faut être tolérant pour tout, mais il ne faut surtout pas être tolérant pour la parole de Dieu.
Voilà.
C'est le ça. Pire de tout, c'est que ça soit comme ça.
Tu dis, pardon
c'est... Le pire de tout, c'est l'Israël qui soit
comme ça. Ah, qu'il soit aussi dans cette ligne. Hein.
Oui, c'est aussi chez eux.
C'est pas que ça. Tous les entrailles de pays qui font des homosexuels, ils se refugient chez Israël. Vous comprenez là.
Ce sont les musulmans
qui ne sont pas croyants de Jésus-Christ. C'est eux qui vont réfugier au Israël pour homosexuels.
Ah, ouais.
C'est partout comme ça.
Ouais.
C'est le règne de Satan.
Mais ce qu'on vient de lire, on le vit maintenant. C'est qu'on le vit à puissance. Je ne pourrais pas dire quelle puissance encore. Et autorisé, attention. Parce qu'avant, ce n'était pas autorisé. Mais maintenant, c'est autorisé. Encouragé, autorisé. Ils vont même leur donner de
d'adapter
les enfants, d'avoir les droits de succession comme les gens mariés normaux. Tout, ils veulent complètement tout chambouler.
Puis ça s'est fait, ça se fait, mais l'esprit, ça va terriblement vite. Quand on voit, il y a 15 ans en arrière, on ne parlait pas, presque pas, ces couples LGBT, tout d'un coup, mais c'est venu, c'est parti, mais vite, c'est pas possible. Quoi.
Mais chaque fois qu'il y a eu ça, librement, c'était la fin de la civilisation. Les Romains mal finis à cause de ça.
Sodome et Gomorre, c'est le premier
exemple.
Tous, mais avant, c'était juste une partie du monde.
Oui, mais maintenant, c'est partout.
C'est global. Alors, c'est la fin du monde.
C'est la fin des haricots maintenant. On est à minuit moins une.
Mais il n'y avait pas que les Romains, parce que les Grecs avant
Romains,
ils n'étaient pas meilleurs.
Chaque
hein,
civilisation,
parce qu'à l'époque des Grecs
la fin,
et des Égyptiens, les pharaons, ils ont vécu pendant 3000 ans leur civilisation.
Oui, et puis toutes ces générations, toutes ces civilisations, elles ont passé.
Tous.
C'est vrai que quelquefois dans les livres d'histoire, on dit, on ne sait pas pourquoi cette civilisation s'est éteinte, mais nous, on sait qu'il y a eu des jugements de Dieu.
Oui.
Les Incas aussi, hein.
Je pense.
Ils sont arrivés en
sommet. Oui, ça, je ne savais pas, mais le plus que je savais, je me suis dit.
Vous avez dit sacrifice, ouais, sacrifice humain.
Mais,
ouais, sacrifice,
oui, humain. Mais ils tuaient les enfants comme les Grecs.
Ouais.
Tu sais, il y avait une vieille Sparte en Grèce qui faisait ça.
Les Juifs le faisaient.
Les Juifs aussi.
Ouais. Les Juifs aussi, quand ils.
Tu sais, les enfants qui n'étaient pas dignes d'être
comme leurs enfants.
Ceux qui étaient un peu invalides ou bien qui étaient mal formés ou qui avaient un peu trop d'embonpoint, qui étaient trop gros, qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas être. Dans l'armée de Sparte, parce qu'en Grèce, à l'époque, la Grèce antique, il y avait Athènes, il y avait Corinthe, il y avait Sparte, mais les Spartiates, c'est très, très fort dans le domaine de l'armée militaire. Et qu'est-ce qu'ils faisaient d'en haut des falaises où ils habitaient, pas loin de la mer, hein, Sparte, en Grèce, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jetaient les enfants depuis le haut, ils les tuaient en bas des falaises, comme ça, sans discuter, sans rien du tout. Ah non, il ne fera pas un bon soldat, celui-là. Puis il ne nous plaît pas. Bon, il jetait. Les Incas, c'était la même chose, Pierre, comme tu disais. Eux, les Incas, ils les livraient au sacrifice directement.
Ouais, on ne rien de nouveau sous le soleil. Hein.
Non.
Ça devient toujours plus pire, comme on dit.
En Inde, il paraît qu'il y a des sacrifices humains.
Oui, oui, oui.
Ah oui.
Oui, partout. Partout,
même. Encore aujourd'hui.
Mais bien sûr.
Partout. Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais.
Mais il y en a. Plus qu'on ne pense.
Dans les choses, dans les messes sataniques,
voilà,
dans les
sacrifices humains. Vous avez vu en France, là
Oui, il a été sonné à la porte avec un sabre qui voulait que cette famille donne leur enfant pour le sacrifier. Oui.
Oui.
Et puis après, là, ils ont téléphoné à la police est venue les arrêter, ils l'ont relâché, puis elle est venue, puis elle a tout jeté en bas son appartement, les animaux, ses meubles et tout. Ils ont dû l'enfermer, la bonne femme.
Ouais. Démoniaque.
Ah
oui, oui, oui. Oui, oui, mais.
Mais.
Je vous dis, c'est plein de fous maintenant.
Ah, là,
on voit que les esprits sont lâchés, ah, ouais, que maintenant.
Ils... Mais qu'est-ce que ce sera quand ils seront complètement
voilà,
lâchés?
Ah, ben, voilà. Ce sera toujours.
On s'en fait qu'une idée. Parce que. Parce
ça
que...
rejoint ce que tu disais avec la retenue de chrétiens entre nous, par rapport aussi aux chrétiens dans le monde, où le mal est plus ou moins contenu
à cause du Saint-Esprit.
À cause du Saint-Esprit.
Mais une fois que les chrétiens seront enlevés, tu vas voir comme ça va être. Ça déchaînement incroyable.
Dans Apocalypse 9, hein, il est dit, les hommes, ils chercheront la mort, ils ne la trouveront pas.
Ouais.
Alors moi, je n'ai pas l'interprétation,
mais
peut-être tellement les gens seront possédés, puis les démons ne laisseront pas mourir, parce qu'ils les feront souffrir, c'est tout.
Ouais. Hein,
les gens ne suicideront pas, ils seront complètement possédés par les esprits mauvais. Enfin, il y a un deuxième texte que je vous propose, mais les plus courts, celui-ci, Apocalypse 12, les versets 7 et 9, où il nous parle aussi du diable qui tombe. Parce que ça nous donne de comprendre toujours ce 2 Pierre 2, 4, là. Donc Apocalypse 12, si quelqu'un veut lire, 7 et 9.
Il y eut alors une bataille dans le ciel. Le dragon, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts. Et il y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui.
Et puis c'est là que ça va commencer.
Il fut jeté sur la terre, c'est marqué, ses anges avec lui.
Tu vois un peu ce que ça va donner, ça.
Ouais, ouais. Si lui et plus ses anges encore, ils sont jetés sur la terre, oula.
Il y aura un temps qui sera pas simple, hein. Et puis ça, ce sera vraiment dans les temps de la fin, où en effet, hein, moi je crois que l'Église sera enlevée. On va voir d'ailleurs un texte par rapport à ça encore.
Ce soir. Heureusement, autrement il n'y aura plus personne.
Mais c'est vrai que ces manifestations démoniaques, on va en voir aussi de plus en plus. Hein. Voilà, que Dieu nous protège, parce qu'on a la victoire. Hein, Jésus-Christ est la protection de son sang. Cette étoile un jour qui va tomber du ciel, comme on lisait avant, ben moi je pense que c'est Satan. Quand il sera précipité sur terre, il sera animé d'une grande colère parce qu'il saura qu'il a peu de temps. Voilà, peu de temps lui restera à vivre, quoi, hein, avant d'être que son sort soit scellé. On voit que, si on retourne donc en 2 Pierre 2, verset 5, on voit des exemples, hein, on en a déjà un petit peu parlé. Le premier exemple, c'est Noé, au verset 5. Hein. Il n'a pas épargné le monde ancien, mais il a sauvé Noé, le huitième. Lui, le huitième, ce prédicateur de la justice, lorsque il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Donc, Noé, le huitième, parce que c'était le huitième de sa famille à entrer dans l'arche. Dieu a jugé. Dieu a jugé une fois ce monde. Nous, on le croit. Bien sûr que le monde n'y croit pas. Pourtant, Dieu l'a déjà fait une fois. Dieu a déjà fait une fois et Dieu a déjà jugé une fois. Pardon, il ne restait que 8 personnes vivantes hein, de ce jugement. Un deuxième exemple, c'est celui de Sodome et Gomorre. Hein. Des villes et une région, c'était une large région où il y avait plusieurs villes. Il n'y avait pas que Sodome et Gomorre, mais il y a plusieurs villes qui ont été détruites, toute une région qui a été détruite, où Dieu a envoyé son feu du ciel. Là aussi, il y a eu peu de survivants. Hein. Lot et ses deux filles, hein. Il avait deux filles, sauf erreur. Hein.
Ouais. Sa femme, mais elle s'est retournée.
Elle s'est retournée, hein. Elle s'est transformée en statue de sel. Et puis, on voit, ça nous rappelle hein, tout ce passage, les jugements du Seigneur qui viendront sur cette terre. Et que, ben voilà, on doit se rappeler aussi pour être dans la crainte du Seigneur, hein, qu'un jour, en effet, toute chose viendra à jugement. Et puis, Jésus, dans un passage parallèle, que je trouve intéressant de relire, par rapport au jugement, où il parle de Lot, il parle de Noé, il parle des jugements qui ont déjà eu lieu sur cette terre. C'est en Luc 17. Luc 17, et puis on peut lire les versets 20 à 37. Luc 17, 20 à 37.
Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous.
Ce qu'il nous a dit dimanche.
Ouais.
Elle dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Et vous ne les verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après.
En effet, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme dans son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération.
Jusqu'à où tu avais dit ?
Jusqu'à 37.
Ah, ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et a tous fait mourir. Il en dira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra.
Ce jour-là que celui qui sera sur le toit et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra et celui qui la perdra la conservera.
Je vous le dis, cette nuit-là, deux personnes seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux femmes moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où cela se passera-t-il, Seigneur ? Il répondit, là où sera le corps, là se rassembleront aussi les vautours. Oui.
Merci. Alors voilà, un texte qui nous parle de la venue du Seigneur de son royaume. Et il est intéressant quand Jésus dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, de remettre ça dans le contexte, parce que c'est, on l'a souvent entendu, hein, ce verset, eh ben, c'est un contexte de jugement, en fait, ici. Hein. C'est l'imminence de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Le royaume de Dieu ne va pas venir de manière à frapper les regards. C'est quoi? C'est l'Église qui va se faire enlever. Les gens ne s'attendront pas à ça. Hein, et on le voit dans le passage qu'on vient de lire par rapport à Noé. Les gens n'attendaient pas le déluge. Ils riaient, ils se riaient de Noé. Mais c'est quoi ce fou?
Il construit un bachin dans le désert.
Une immense arche pour où il y avait tous ces animaux qui sont rentrés.
Ils venaient se moquer de lui souvent.
Oui, ils se moquaient de lui, je pense. C'est démesuré ce qu'il est en train de faire.
Ah oui, on vient de dire, mais il a pris un coup de soleil un peu trop fort. Là. Il y croit, lui, toute sa famille. La même chose en fait pour Lot, pareillement, hein. Les gens buvaient, achetaient, faisaient du commerce, construisaient leur maison, plantaient et tout, ils n'en ont plus rien vu venir, hein. La même manière, le royaume de Dieu va pas venir de manière à frapper les regards, hein. Ça veut dire que tout à coup l'église sera enlevée
comme la statue, la pierre, paf, puis c'est brisé,
voilà,
fini,
voilà. Et il y aura beaucoup de gens qui, ce jour-là, quand l'église sera enlevée, parce que c'est là où ils disent mais que les montagnes tombent dessus. Parce qu'il y a des gens qui auront connu les Écritures, puis qui vont se dire, oh purée, maintenant c'est le jugement de Dieu qui vient. C'était donc véritable. On a rigolé jusqu'ici de ces Écritures, mais voilà, il y aura quand même des gens qui auront des connaissances bibliques, qui se diront, ben là il s'est passé quelque chose que... C'est surnaturel, et puis je sais le fondement. Tout ce texte qu'on vient de lire, en fait, en arrière-fond, il y a pour moi hein, vraiment un enseignement par rapport à l'enlèvement de l'Église, à ce que l'événement, Jésus va venir comme un voleur au milieu de la nuit, hein, et ça, c'est sa première venue quand il vient enlever l'Église. Et quand il reviendra dans la gloire, comme il dit là, hein, car comme l'éclair, verset 24, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Hein, ça, c'est quand Jésus-Christ va revenir. Ce jour-là, ben, la gloire de Dieu va se manifester, il n'y aura plus la question. Hein, il met en garde, avant ce temps-là, de ne pas se laisser séduire aussi, hein, et puis d'aller là où en fait il n'est pas, hein, verset 21. On ne dira point il est ici où il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Hein. Donc les gens ils vont se laisser bercer par des vaines illusions en allant à des endroits ou à d'autres. Alors que le royaume de Dieu, il est déjà possible et présent au fond de nos cœurs. Et puis, on voit dans le passage donc, qu'on vient de lire toujours dans Luc, hein, il y aura une personne dans un lit qui sera enlevée, puis l'autre qui sera laissée. Il y a deux femmes qui seront dans un champ, l'une sera prise et l'autre laissée. Et puis, on voit que c'est un événement qui vient extrêmement rapidement. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Hein. Il y a vraiment, c'est simplement pour nous parler que l'événement va être rapide.
Hein. Donc il n'aura pas le temps d'aller les chercher si c'est
non.
Non. Si c'est comme l'éclair rapide, ça. Il n'aura même pas l'idée d'aller chercher son passeport, par exemple.
ou d'aller chercher les siens, hein, en espérant qu'ils se repentent encore.
Il n'aura pas. Ça sera dingue comme ça.
Tac.
Et puis ceux par rapport à ce passage-là qu'on vient de dire, ceux qui seront le marque sur le front, que ces fameuses sauterelles n'attaqueront pas. Ouais. Quels sont les deux?
C'est après coup.
Donc, mais ça sera qui alors?
Ce sera ceux qui se convertiront
après coup.
Après l'enlèvement de l'Église.
Après l'enlèvement de l'Église. Parce qu'il y en a il faut interpréter comme
ça. Il y en a qui vont se convertir encore après.
Ouais. Ah, c'est ceux-là qui seront. Ouais, ils auront la marque sur le front.
Ils vont passer par des persécutions terribles. Le diable aura autorité sur eux. Ils vont passer par des persécutions terribles. Ouais.
Donc, il vaut mieux faire partie de l'enlèvement.
De l'enlèvement initial.
Il vaut mieux se convertir avant, parce qu'après, ils vont souffrir.
Mais puis c'est mentionné la marque de Dieu sur le front, ils seront pas touchés.
Non, mais ils subiront, mais ils vivront.
Ils vont subir. Mais... malgré qu'ils seront pas touchés.
Ils seront pas possédés par les démons qui vont sortir de ces
abîmes. Non, ils vont vivre.
Mais le diable va les persécuter. Hein.
Ils vont vivre d'enfer, quoi, en gros.
Ah ben oui.
Quand on dit l'enfer sur la terre, tu vois.
Ouais, c'est ça. Ça va être ça. Ouais. C'est vrai que c'est un bon résumé.
Mais hein. ils auraient pu choisir avant, mais ils n'ont pas voulu.
Ouais.
Ou ils avaient le cœur de deux chaises, comme on dit.
Ouais.
Peut-être bien, oui, peut-être bien que non. Puis après, à un moment donné, c'est trop tard. Mais là, il y aura encore un temps de grâce que le Seigneur se connaît. Hein. Oui. Nous, on n'a rien à dire là-dedans. C'est pas notre affaire. Heureusement. Parce qu'on dit, ouais, mais... Puis on juge tout de suite, on essaye de raisonner. Il n'y a rien à raisonner.
Dieu est parfait dans sa science. Mais c'est vrai que c'est des passages bibliques, des fois, qui sont difficiles à interpréter, parce qu'il faut, déjà avoir un peu dans la tête la structure des événements. Mais au moment où tu as la structure des événements, justement par rapport à l'enlèvement de l'Église, c'est pour ça que moi j'y crois, parce que tu vois plein de passages qui collent avec cette doctrine-là. Et ça ne se contredit pas. Et puis tu vois des passages, tu dis, ah ben oui, tiens, voilà, typiquement ça s'en est, hein, ou un enseignement. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ça annonce aussi l'enlèvement de l'Église, quelque part.
Et dans 2 Corinthiens, il le dit aussi, ça viendra subitement. Ouais. Les morts en Christ ressusciteront, les autres.
Ouais.
Pourquoi ça ne frappera pas les regards? Mais si ça vient comme un éclair, ça va frapper les regards. Mais...
Avant, il n'y aura pas de signe. Avant, il n'y aura pas de signe. Voilà.
Il
n'y
aura pas de
signe.
Comme,
le déluge, il n'y a pas eu de signe avant.
Ce n'est pas un éclair qu'on verra. C'est comme un éclair, donc subi, comme ça.
La réaction d'un éclair, en gros.
Voilà.
Ça sera enlevé de la réaction d'un éclair. Ça ne sera pas préparé, rien du tout.
Ça sera d'un coup.
Il faut comprendre comme ça, voilà.
Ceux qui connaissent la Bible, il y aura le signe quand même. Le mois qui va te battre.
Oui, on sera préparé, le Saint-Esprit va préparer.
Il y a tous les signes que nous
avons. Oui,
oui. Oui.
Bien sûr, celui qui veut croire, oui. Comme Lot, il savait qu'il fallait sortir. Et comme Noé, il savait qu'il devait se préparer. Hein, Lot, il aurait pu dire, moi je reste. Il aurait pu dire, moi je reste dans Sodome. Il serait mort. Le jugement de Dieu serait tombé sur lui.
Ouais, mais on voit quand même que les anges qui étaient là pour prendre avec sa famille,
il y a eu 2 ans.
Assisté.
Ah oui, bien sûr.
Parce que Lot, c'est quand même extraordinaire, tu vois, comme Dieu, il est merveilleux, il est juste de grâce avec tous les hommes. Parce que bon, c'était un juste, hein, c'est bien marqué que c'était un juste, mais il a quand même vécu dans le compromis. Il a vécu dans le compromis.
Par la force des choses. Il est entouré de ces gens.
C'est-à-dire qu'il s'est marié aussi avec une femme qui ne devait pas être forcément chrétienne. Parce qu'elle, elle regrettait la vie.
C'est pour ça qu'elle a regardé en arrière.
Elle s'est retournée en arrière pour regarder. Puisque Dieu avait dit, vous ne vous retournerez pas, vous irez tout droit. Elle ne l'a pas fait, parce qu'elle avait le regret de quitter cette ville. Mais l'autre, bon, il l'a suivi, Mais par contre, il était tourmenté. On peut être aussi juste, mais tourmenté aussi.
Mais c'est mentionné qu'il était tourmenté.
Par le compromis qu'on a, qu'on peut avoir dans la vie pour certaines choses, où on maintient des choses dans nos vies qui ne sont, pas conformes à la pensée de Dieu, quoi, pour nos vies.
Alors, il y a vraiment ce passage-là, et puis les passages prophétiques, c'est là où on a besoin de l'Esprit du Seigneur, parce qu'on peut, on peut les lire à plusieurs, entre guillemets, à plusieurs échelles. Parce que, comme cette idée, il y a de l'éclair, en effet, que ce sera très rapide. Hein, mais ça parle aussi de la seconde venue du Seigneur. Tu n'auras même pas besoin de savoir où il est. Parce que celui qui connaîtra ce passage, il sait que quand Jésus reviendra véritablement, celui qui sera le chrétien tiède et puis qu'il se sera repenti, mais trop tard, parce que l'Église aura été enlevée, il saura très bien que ça ne servira à rien d'aller courir je ne sais pas où, soi-disant Jésus y est, soi-disant je ne sais pas tout quoi. Non, parce que quand Jésus va revenir, sa lumière va clairer sur cette terre, les ténèbres vont s'en aller, on va entrer dans un temps complètement nouveau. De la même manière qu'il n'y a rien qui annonçait, on est dans ce temps-là, rien qui annonçait pour l'autre, entre guillemets, rien qui annonçait, en tout cas pour ceux qui ne voulaient pas écouter. Parce que si l'autre avait peut-être connu des personnes vraiment repentant, puis qui serait dire, bah, si je vais aller frapper à la maison de cette porte, on peut s'imaginer, hein, bah, tiens, peut-être lui, il va me suivre, et puis il va se sauver de cette génération perverse. Ben non. Hein, en tout cas, l'image de ça, par contre, ça c'est moi qui avance un peu par rapport à l'autre, mais par rapport à Noé, véritablement, il était le huitième, il était le dernier à la porte, là, et puis il attendait que quelqu'un vienne, puis qu'il avait, c'était un prédicateur de la justice, il avait prêché, repentez-vous, venez au Seigneur, bientôt va venir le jugement. Il a attendu, et à un moment donné,
c'est Dieu qui a fermé la porte,
il a dit, c'est bon, arrête de pleurer sur ce monde, le jugement est arrivé. Donc l'enlèvement de l'Église, ça va être comme ça rapide. Hein.
On a un clin d'œil.
C'est juste un...
Puis un, il dort, parce qu'il est de l'autre côté de la terre, et il fait nuit, tu vois, pendant qu'il dort. L'autre, il est en train de cultiver dans l'autre hémisphère.
Ah ouais, c'est pas,
on peut imaginer comme ça, hein. Ouais, il est agriculteur en train de planter,
tu,
hein.
Tu crois, comme ce nouveau courant, qu'il y en a qui disent que la terre est plate.
Non, un autre, peut-être, il sera à la pêche, en train de pêcher des poissons au bord du lac, je sais pas.
Tu vas monter avec la canne à pêche, tu vois.
D'autres qui seront dans des avions.
C'est pour ça qu'il y en a qui disent.
Ah, mais il y a encore ça,
le pilote d'avion. Il y en a qui disent,
mais dans la voiture. Celui qui est dans une voiture.
Eh ben, après, si c'est une pièce-là, elle va s'arrêter toute seule, c'est bon.
Si elle s'arrête, heureusement, parce que c'est le coup.
Mais il y en a qui disaient, un pilote d'avion qui est enlevé, ben, l'avion, il s'écrase.
Oui, mais maintenant, il parle même dans qu'il n'y aura plus de pilote d'ici peu.
Oui, voilà.
Ça va encore aller un bout, hein. Mais qui pourrait être entièrement automatique, là.
C'est déjà une sorte de jugement. Comme la voiture,
faire les voitures qui
auront une catastrophe.
Se conduisent toutes seules. Ils veulent inventer les voitures que maintenant tu n'as plus besoin de chauffeur, hein, maintenant. Tu rentres dedans, puis voilà.
Peut-être
tu
arrivé, là, peut-être
mais il y en a quand même qui se poseront des questions, parce qu'il va y avoir des catastrophes le jour d'enlèvement. Souvent, ce qui se passe, ce que tu es en train de faire, le chrétien.
Et tu es dans une voiture.
La voiture s'écrase, les autres s'écrasent, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'a pas le temps de sauter depuis derrière pour prendre le volant.
Je ne sais pas comment ils expliqueront ça. Hein. Ouais. Il y a un virus.
Mais ils trouveront des excuses.
Il y a des ovnis. Non, mais je sais pas.
Il y a les ordinateurs qui vont complètement détraquer. Alors, c'est ça qui est grave. Parce que comme on est dirigé par les ordinateurs maintenant, de plus en plus.
Et puis, les disciples demandent Pardon ?
Ça fait plaisir à Georges. Comment on est tout le temps dans les ordinateurs maintenant.
Sans compter tous ces hackers qui sont très spécialisés pour détourner tous les comptes bancaires de ceux qui ont les comptes bancaires. Et puis tout
faut,
le reste,
il faut rien, les comptes il faut bancaires. Rien commander par Internet, c'est plus prudent.
Ils commandent pour toi maintenant les hackers et puis ils envoient la facture en plus.
Ah oui, alors ça, ouais.
C'est arrivé déjà, ça, plusieurs fois. Ça, hein. Heureusement, Serena, vous n'êtes pas rentré dans ce domaine-là.
Ah, même sans que tu aies sur Internet, hein. T'as pas besoin d'aller sur Internet. Mais oui, parce qu'ils vont faire livrer à ton adresse. Et puis, dès que le facteur est passé, ils piquent le paquet. Puis toi, tu reçois la facture, on te rappelle deux mois après parce que t'as pas payé.
Moi, je vous dirais que je commande jamais rien par Internet. Je l'ai fait une seule fois pour un collègue. Commander un billet de musique, on a pu l'imprimer, on a mis son numéro de carte et il a reçu un rappel depuis à sa banque, ils y ont bouclé son compte parce qu'ils y avaient détourné, pas beaucoup, 40 ou 50 dollars depuis le Canada. La seule fois où j'ai servi pour Internet, pas pour moi, pour quelqu'un d'autre, j'avais dit jamais moi je commande par Internet. Et bien la seule fois où je l'ai fait pour rendre service, il s'est fait détourner, je sais pas comment, mais il s'est fait détourner des rangs.
Ah, mais la musique, c'est le pire.
Ouais,
bon Dieu nous a fait grâce pour le matériel.
C'était des billets pour un concert.
Ça fait par Internet.
Musique, partition, il ne faut jamais commander sur Internet.
Jamais rien. Non, non.
Avec la carte. Jamais.
Moi, je n'ai pas de carte, c'est plus simple.
Ah, là aussi,
moi, j'ai commandé toute ma vie sur Internet, je n'ai jamais aucun problème.
Tu vois, là, un homme de foi.
Moi, j'ai commandé tout le temps.
Deux hommes.
Moi, le seul problème que j'ai jamais eu, c'est la musique.
Ah ouais.
Et puis c'est rapide, c'est magnifique. Mais
oui, moi, mon fils, quand je veux quelque chose, c'est mon fils qui commande.
On a des emplois avec ça.
Pour te dire, il était au Japon, il a commandé aux États-Unis un truc pour mon téléphone, il a pu l'avoir.
Avant que si tu commandes à Zurich un truc, tu l'as avant depuis les États-Unis.
Oui, il était au Japon, il a commandé aux États-Unis pour moi, je l'ai reçu une semaine après. Ça avait été payé, j'ai rien eu à faire. C'était 14 balles. Mais moi-même, je ne fais jamais ça parce que j'ai
des cordes de guitare, tout simplement.
sur un site suisse, mais l'antenne elle est en Grande-Bretagne. Ah.
Ça va pas vite que la poste ici.
Plus vite que la poste ici.
C'est bien. Ouais.
Puis meilleur marché. T'as 2 francs de port, alors que quand tu commandes un truc à Lausanne, t'en as pour 10 balles. Ouais. Et puis, depuis le Royaume-Uni, c'est 2 francs.
Non, moi, je te dis, c'est venu des États-Unis.
Et de Chine et du Japon, c'est 0 francs de frais.
Ah, ouais, carrément.
Si tu commandes du lourd,
oui, mais.
Bon, il a payé 14 euros la fourre du téléphone. Je l'ai reçu des États-Unis une semaine après.
Il donne les frais.
Ah, je te dis, c'était. Enfin,
vraiment. Alors, juste comme ça, on peut finir quand même le passage qu'on a lu. Simplement Luc 17, les disciples qui demandent au verset 37, je relis, les disciples dirent où sera ce Seigneur, où est-ce que ça va arriver? Ils n'avaient pas trop bien compris. Mais en fait, ça va arriver partout. Comme tu disais, expliquais très bien, un endroit il fera nuit, un endroit il fera jour. C'est vrai que ça montre bien que Dieu annonçait déjà que le jugement serait complet. Où sera le corps? Là, s'assembleront les aigles ou les vautours. Donc, ça annonce le jugement. Ça annonce les temps difficiles. Ça annonce les morts, en fait. Les vautours, voilà, ils arrivent quand il y a une bête qui est décédée. Ça annonce la mort, en fait. Ça va être sur le pourtour de la terre. Il n'y a pas un endroit qui échappera au jugement du Seigneur. Donc, je finis en revenant simplement dans 2 Pierre 2. Je vous relis les versets 7 à 8. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc là aussi, là derrière tout ce passage de 2 Pierre qu'on vient de lire, il y a aussi indirectement vraiment un lien avec l'enlèvement de l'Église et le verset là, clairement, qui nous donne cette espérance. Dieu, il sait délivrer le juste. Donc, et puis réserver pour l'injuste le jugement. Donc, voilà, on ne doit pas être dans la crainte. Et c'est pour ça que moi, je crois que le Seigneur va venir chercher son Église. Pourquoi il ferait passer son Église, le jugement, alors qu'elle cherche à vivre dans la piété, dans la crainte de Dieu et dans le respect de ses lois? Pourquoi est-ce que l'Église devrait subir le même jugement que le monde? Moi, je crois vraiment en cette promesse du Seigneur, que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ça, je crois que c'est un verset, encore un autre, parmi d'autres dans la Bible, qui nous parle de l'enlèvement de l'Église. Voilà. Donc moi, j'aurais fini pour ce soir. Si...
Donc on en reste, le prochain, c'est depuis le verset 9, alors, c'est ça. On va continuer,
verset 9. Non, ça c'était le verset 9, ce que je viens de lire. Puis 10, on l'a lu, ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté.
Ah oui,
qui...
d'accord.
Alors oui, on va reprendre la moitié du verset, en fait, pour être précis.
Présomptueux, arrogant, etc.
Voilà, ça après on va détailler, en effet. Ouais. On s'arrête à 9, on peut dire.
Et puis,
voilà, c'est ça.